Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat. Quand nous comprenons le plan de Dieu, l'intention de Dieu pour l'homme, pourquoi nous sommes nés, nous comprenons aussi comment nous devons nous comporter, ce que nous devrions faire de nos vies. Puisque Dieu nous a révélé sa parole. Et nous pouvons nous baser sur 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16. Je prends ceci comme point de base, comme point de départ pour ce sermon. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Aujourd'hui, ça va être plus de l'enseignement, mais le but de ce sermon, c'est aussi de nous encourager. Nous comprenons bien le plan de Dieu en ce qui nous concerne. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 12, je m'y rapporte pas. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 12, nous lisons ceci. Marchez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Marchez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous voyons donc le plan de Dieu en ce qui nous concerne, ceux qui sont appelés, et bien sûr par la suite toute l'humanité, le plan de rédemption pour l'humanité. Mais en même temps, nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre, nous disposons de ce libre arbitre qui a existé dès le début. Et pour prononcer ce serment, je me suis inspiré d'une idée de M. Taylor, notre trésorier. Nous allons commencer, si vous voulez bien, avec Deutéronome chapitre 30. Nous sommes maintenant presque à la fin des 40 ans de punition et une nouvelle génération va prochainement traverser le Jourdain pour aller en terre promise. Une nouvelle génération avec qui Dieu pouvait travailler. Mais pour situer le tout, nous allons regarder Deutéronome chapitre 1 et le verset 3. Deutéronome chapitre 1 et le verset 3, dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Donc, ils anticipaient ce moment. Deutéronome chapitre 2 et le verset 15. Deutéronome chapitre 2, le verset 15. Nous allons commencer avec le verset 14. Le temps que durent nos marches de Kadesh-Barnéa au passage du torrent de Zered fut de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp comme l'Éternel leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Israël avait tourné la page, si je puis dire. Les incrédules étaient décédés, tous ceux qui avaient 20 ans et au-dessous. Et Dieu allait travailler avec une autre génération qui allait obéir, qui était malléable dans les mains de Dieu, qui reconnaissait sa puissance, qui reconnaissait qu'ils ont vu son intervention et qui ont, par la suite, coopéré avec Josué, qui était réceptif. Nous arrivons donc à Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 et le verset 15. C'est un moment solennel dans leur histoire. et Moïse leur parle avant sa mort. Chapitre 30 et le verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Ils avaient un choix. Il y avait un choix entre deux voies. Verset 16, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » C'est très positif. Et la Bible précise ici comment il devait choisir la vie. Une bénédiction inégalée. Et bien sûr, nous voyons la même chose pour nous. Nous voyons le bien que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Moïse revient à la charge. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Moïse insiste, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Martin, la version Ostevat dit ceci, dans le verset, au début du verset 20, en aimant l'Éternel ton Dieu. Autrement dit, on choisit la vie en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix. Et la version Martin continue, en t'attachant à lui, car c'est lui qui est ta vie. Dieu nous aime d'un amour profond, mais Dieu s'attend également à ce que nous aimions Dieu en retour, de choisir la vie avec Dieu, d'aimer la voie de vie de Dieu, ses commandements, ses statuts, ses préceptes, comme c'est évoqué dans les psaumes. Deutéronome chapitre 30 s'applique également à nous, à plus forte raison, sur un autre plan, parce que ça s'applique aussi dans le domaine de la vie éternelle. Nous avons déjà choisi la voie de Dieu. Et ce que j'ai voulu faire dans ce sermon, et c'est le titre même de ce sermon, c'est de vous démontrer l'amour, de nous démontrer l'amour de Dieu. Cet amour profond dans toutes les étapes de notre vie de chrétien. Dès le début, Adam et Ève avaient un choix. Et après qu'ils ont péché, Dieu a empêché Adam et Ève de prendre de l'arbre de la vie. Quelque temps après, nous voyons ce qui s'est passé avec Caïn. Genèse chapitre 4 et le verset 6. Genèse chapitre 4, verset 6. Dieu n'avait pas porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, comme c'est marqué dans la Bible, verset 4. Caïn était très irrité, comme c'est mentionné dans le verset 5. Puis le verset 6. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Nous voyons ici déjà le grand amour de Dieu, parce que Caïn aurait pu changer. Je lui ai parlé, je l'ai encouragé
a changé. Dieu voulait qu'il domine sur le péché. Dieu voulait qu'il prenne la bonne voie. Bien entendu, c'était Dieu qui a établi les normes pour rendre un culte à Dieu. Mais inévitablement, à travers l'histoire, il fallait que l'homme se repente pour revenir vers Dieu. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais on voit aussi la miséricorde de Dieu, parce que quand l'homme se repent, Dieu pardonne. Là aussi, c'est l'amour de Dieu. Et nous voyons donc l'amour de Dieu déjà dès le début de l'histoire de l'homme, dans le passé. Nous voyons le désir de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3 et le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. C'est une écriture avec laquelle nous sommes assez familières. Je m'y rapporte pas, je le cite seulement. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que, c'est ce que le désir donc de Dieu, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Et Dieu exerce sa miséricorde, son amour. À ce moment-là, Dieu pardonne. Et il y a un certain nombre de personnes à travers l'histoire, à travers le passé, qui se sont repentis et à qui Dieu voulait, a pu montrer la miséricorde, que Dieu, dans son immense amour, a pardonné, qui ont pris une autre voie et qui sont sur le chemin pour hériter de la vie éternelle. Et bien sûr, Dieu veut que tout le monde, ultérieurement, puisse avoir accès à la vie éternelle. Dieu a tellement aimé sa création qu'il nous a donné un sauveur, un rédempteur. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 18. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Prédestiné avant la fondation du monde. Le Christ savait auparavant qu'il allait souffrir d'une façon atroce, par amour pour l'homme, pour l'humanité. Et nous, face à ce sacrifice du Christ, nous pouvons choisir la vie avec Dieu. Bien sûr, tout le monde aura sa chance. Nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 18 un plaidoirie, si je puis dire, de la part de Dieu, qui montre son amour. Dans Ézéchiel chapitre 18, Dieu demande que chacun doit choisir sa propre voie avec les conséquences que cela comporte. Et dans Ézéchiel chapitre 18 et le verset 29, nous lisons ceci, Ézéchiel chapitre 18 et le verset 29, la maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite? Maison d'Israël, ne sont pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Pour toujours se comparer avec les voies de Dieu. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Les conséquences du péché. La ruine. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Un changement, c'est ce que Dieu veut que l'homme fasse. Que les enfants d'Israël à l'époque fassent. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël, en prenant justement la mauvaise voie? le mauvais chemin. Verset 32. Dans son grand amour, Dieu ne voulut pas qu'Israël prenne la mauvaise voie, la mauvaise décision. Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. C'est Dieu qui a créé l'homme dans un dessein. Je voulais vous parler aussi de l'exemple de la génération à l'époque, de la génération des enfants d'Israël qui existait à l'époque de Josué. J'en ai déjà parlé dans le sermon que j'ai donné il y a quelques semaines, et j'ai voulu donc revenir dessus. Josué arrive au moment de sa mort. Josué, chapitre 23, et le verset 14. Voici Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Donc, il était très conscient qu'il allait mourir. Et il a parlé aux enfants d'Israël. Ils étaient de nouveau devant un choix. Chapitre 24. Et le verset 14. 24, chapitre 24 et le verset 14, Josué qui le parle. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Ils ont encouragé à suivre cette voie de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ils avaient donc un choix. « Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué avait déjà pris sa décision. Israël avait la possibilité de choisir la vie, de continuer à choisir la vie avec Dieu. Leur réponse, verset 16. Leur peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Autrement dit, nous faisons un choix. Verset 17. « Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples du milieu duquel nous avons passé. » Autrement dit, ils ont regardé leur histoire récente et ils ont vu la main de Dieu, la réalité de Dieu. Ils ont regardé dans le passé. Ils ont regardé en arrière. Ils ont vu. Et ils ont pu regarder l'intervention à maintes reprises de leur Dieu. Verset 18 commence à énumérer les miracles de Dieu, les interventions de Dieu. Verset 18, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoriens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Il s'engage à suivre Dieu. Verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Il fait face à leur responsabilité, à la possibilité qu'ils allaient justement transgresser les lois de Dieu. Verset 20, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien, s'ils avaient choisi la mauvaise voie. Verset 21. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Ils étaient résolus de suivre Dieu. Verset 22. Josué dit au peuple, vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ils sont vraiment, à ce moment-là, dans leur histoire, ils sont vraiment décidés. Et le verset 24, le peuple dit à Josué, encore une fois, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Ils ont regardé le passé immédiat et ils ont pu voir la main de Dieu, l'intervention de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans le passé. Et nous aussi, nous pouvons regarder notre passé dans l'Église, donc, et nous pouvons voir, comme c'est marqué dans la Bible, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous pouvons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous pouvons regarder le passé d'une façon positive. Nous pouvons compter nos bénédictions que nous avons eues à maintes reprises. Nous pouvons méditer sur l'amour de Dieu dans notre vie en regardant en arrière et cela va nous encourager pour faire face à l'avenir. Dans le Nouveau Testament, nous avons toujours le même choix, mais quand nous répondons à l'appel de Dieu, nous avons aussi la possibilité de saisir la vie éternelle, comme c'est mentionné dans 1 Timothée. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 8. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction de Dieu. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'est un choix qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Ce n'est pas un chemin facile, mais nous avons déjà choisi ce chemin. Le Christ a déjà lutté quand il était sur terre, parce qu'il avait fait un choix. Un choix qui n'était pas facile, mais il était résolu dans sa détermination. Verset 11 nous donne une suite de directives de consignes, justement pour rester dans cette voie, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. D'être en conformité avec la voie de Dieu, de respecter la loi de Dieu. Et quand nous choisissons la vie avec Dieu, Dieu nous aide énormément. Il nous aide parce que il nous a donné sa loi. La loi qui définit la norme pour la conduite de l'homme. Pour que l'homme puisse être heureux sur cette terre. Et la loi de Dieu nous protège de nous-mêmes, nous aide à avancer et établit donc une base pour notre bonheur. Nous aide à faire le bon choix dans la vie. Nous arrivons maintenant donc au présent, parce que nous avons la loi de Dieu qui nous accompagne tous les jours. Nous avons déjà vu le passé à l'époque d'Adam et Ève, à l'époque de Caïn, à l'époque de Josué, nous avons vu l'amour de Dieu. Et ici, nous voyons l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. La loi de Dieu nous permet de définir le péché. 1 Jean 3, 4, nous connaissons le péché et la transgression de la loi. Tout ce qui est nuisible pour nous, tout ce qui est néfaste, tout ce qui nous fait du mal, Dieu nous aide tous les jours avec sa loi. Nous voyons l'amour de Dieu dans nos vies de tous les jours. La loi de Dieu concerne nos rapports avec lui et nos rapports avec notre prochain. Si nous ne mentons pas à notre prochain, Notre prochain a confiance en ce que nous disons. Il croit.
Nous voyons dans le 10e commandement une liste très détaillée de ce qu'il ne faut pas convoiter. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Le 10e commandement protège notre prochain, et le 10e commandement nous protège pour que nous n'ayons pas nos yeux sur ce qui appartient à notre prochain, et qu'on ne se fasse pas de mal. C'est un ingrédient important pour qu'il y ait la paix entre les êtres humains. Le sabbat que Dieu nous a donné, que Dieu a révélé, est un rafraîchissement. Un rafraîchissement pour que nous puissions continuer le chemin de la vie éternelle. Pour que nous puissions être rafraîchis physiquement et spirituellement pour continuer ce chemin. Nous retrouvons chez l'homme le désir de rendre un culte à quelqu'un ou à quelque chose. Et en plus, l'homme aime célébrer. Nous pensons peut-être à notre époque que l'idolâtrie, c'est quelque chose du passé, révolu, mais l'idolâtrie peut être définie par le culte ou par l'admiration d'un faux dieu. Nous lisons aussi, je ne m'y rapporte pas, dans Colossiens chapitre 3 verset 5, Colossiens 3, 5, la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Et il y a beaucoup de cupidité à notre époque. Le Dieu argent. Le Dieu argent. Et qui ne rend pas heureux, bien sûr. C'est un faux Dieu. Dieu nous a donné, Dieu nous donne ses fêtes pour que nous puissions rendre un culte au vrai Dieu, pour que l'homme puisse assouvir un désir de rendre un culte. Dieu savait que l'homme aurait besoin de célébrer certains événements pour son bénéfice. Et nous pouvons célébrer les fêtes de l'Éternel tout en comprenant son plan, tout en l'honorant avec nos biens. Les fêtes de Dieu nous enseignent un certain nombre de choses. Nous nous réjouissons à ces fêtes. Et il y a aussi le côté physique que nous pouvons comprendre profondément, le nettoyage de nos maisons, de nos appartements avant les pinceaux de vin, le lavement des pieds, quelque chose de très physique, le pain, le vin, et même quand nous jeûnons, nous nous réjouissons aux fêtes de Dieu, et le physique nous aide. Ce côté concret est très parlant pour nous. Nous avons également la fraternisation entre nous. Ça nous aide, tout ceci nous aide à mieux assimiler la signification des fêtes de Dieu. Et le but, c'est pour que nous puissions progresser. Année après année, nous voyons donc l'amour de Dieu. Et année après année, parce que nous pouvons être séduits, nous pouvons oublier, nous pouvons nous lasser de faire le bien. Et pendant notre vie présente, Dieu montre également son amour par sa fidélité. 2 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 3. Nous lisons, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira au cours de notre vie, au cours de cette vie présente, il vous affermira et vous préservera du malin. Il va nous protéger de Satan si nous restons proches de Dieu. c'est un grand encouragement. Il y a une autre écriture qui est aussi très encourageante et qui a à voir avec notre vie présente, notre vie de tous les jours, que nous trouvons dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 et le verset 5. Hébreux chapitre 13 et le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, Dieu ne va pas nous abandonner. Il a promis. Quelles que soient nos épreuves, Dieu ne va pas nous abandonner. Le Chouraki rend ce verset de façon suivante. Nous ne l'exprimerons pas forcément de cette façon, mais ça donne la profondeur, le sens de ce verset et à quel point Dieu insiste. Je cite, « Jamais je ne te lâcherai, jamais et jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te lâcherai, jamais et jamais je ne t'abandonnerai. » Quand nous choisissons la vie avec Dieu, nous voyons également la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons donc, à travers les fêtes, nous avons l'esprit, nous pouvons avoir l'esprit axé sur son plan, sur un plan individuel, sur l'aide que Dieu nous donne, et aussi nous pouvons voir notre avenir, l'avenir de l'humanité, et ça m'amène au troisième point de ce sermon, l'amour de Dieu. Nous avons vu l'amour de Dieu dans le passé, dans notre passé, nous voyons l'amour de Dieu dans notre vie présente, et nous voyons également la troisième chose, nous voyons l'amour de Dieu quand il s'agit de notre avenir, parce que nous avons choisi la vie avec Dieu. C'est notre futur, c'est notre avenir. Nous avons aussi besoin d'une vision de l'avenir, et c'est ce que Dieu nous donne à travers les fêtes. Et surtout, quand nous sommes éprouvés, quand nous souffrons, quand la vie est pesante, quand nous avons des problèmes qui se multiplient, quand nous avons de la peine à réfléchir, à tracer un avenir, quand nous sommes découragés, quand nous sommes peinés et quand nous sommes persécutés. Dieu nous a donné la possibilité de réfléchir sur notre éternité. Daniel chapitre 12 et le verset 2. De cette époque merveilleuse, quand toutes nos douleurs, nos souffrances seront oubliées. Daniel chapitre 12 et le verset 2. Dieu nous donne cette vision. Daniel chapitre 12 et le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu répète donc deux fois, à toujours et à perpétuité. Notre avenir, l'avenir pour nous des simples êtres humains. C'est là notre vrai espoir, le dessein de Dieu pour nous. Pour que nous gardions un espoir dans cette vie qui est parfois si difficile. Un encouragement, c'est un avenir brillant qui nous attend. Et nous pouvons être par la suite des porteurs d'espoir dans ce monde qui a tellement besoin. Verset 13. Toujours chapitre 12 et le verset 13. Et toi,
l'ange qui parle ici à Daniel, marche vers ta fin.
Tu te reposeras parce que la mort est un sommeil. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Dieu parle de la résurrection. Là aussi, ce moment magnifique, puisque la mort n'est qu'un sommeil, nous allons nous réveiller, toute l'humanité va se réveiller. Nous avons le récit dans Ézéchiel 37. En Corinthiens chapitre 15 et le verset 42. Dieu a prévu que nous allons nous réveiller lors de la résurrection avec un autre corps. Verset 42, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. L'amour de Dieu, c'est aussi le fait de nous donner un corps glorieux à l'avenir. Je continue. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé, toutes nos infirmités auront disparu à ce moment-là. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 48 du même chapitre. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, avec toutes ses limitations, ses faiblesses, ses lacunes, nous porterons aussi l'image du céleste. J'ai voulu vous lire un extrait de notre brochure, Le dessein que Dieu a pour vous. Le dessein que Dieu a pour vous, la raison de votre existence. Et à la page 37, nous lisons ceci. À la page 37. Notez la description que donne l'apôtre Jean de la transformation de chair à esprit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. Un peu plus loin, dans la même page. En revanche, quand nous serons nés de la famille divine, nous pourrons voir Dieu dans toute sa gloire car nous serons des êtres spirituels divins comme lui. Le prophète Daniel décrit les saints ressuscités comme resplendissants, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comme resplendissant comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. Jésus a dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, verset 43. Un peu plus loin, les enfants de Dieu émaneront la puissance et l'énergie comme Dieu dans toute sa gloire. Page 38. Qu'il sera fascinant de passer de l'état physique et charnel à celui d'esprit divin glorifié. Note aussi que les chrétiens sont transformés en la même image, celle du Christ, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. De Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il décrit tout ce processus à commencer par la transformation de notre caractère et devant culminer un jour par la transformation de notre corps, devenant comme Christ. Dans Philippiens chapitre 3, verset 21, il parle de Christ qui transformera le corps de notre humiliation et le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'ajugétir toutes choses. Il est aussi écrit que ce qu'il a connu d'avance, entre parenthèses, qu'il a appelé dans l'ère présente, fermez la parenthèse, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le mot original grec traduit en français par semblable est symorphos, mot qui décrit littéralement une métamorphose menant à la même existence divine glorifiée que Christ. L'accumulation du processus débuté par notre conformité à son caractère en cette vie. Romains chapitre 12 et le verset 2. Plus loin, nous ne sommes pas nés pour simplement être médiocres ou simplement devenir une meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes nés pour devenir aussi parfaits que possible, rassemblant entièrement à Christ glorifié. Notre avenir est stupéfiant, est vraiment merveilleux. Et nous voyons dans cet avenir, en ce qui nous concerne, nous voyons cet immense amour de Dieu pour ses enfants. Je voulais regarder aussi avec vous un dernier passage dans Romains chapitre 8. Nous allons commencer à lire à partir du verset 16. Romains chapitre 8 et le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et l'apôtre Paul savait de quoi il parlait quand il parlait des souffrances du temps présent. Parce que c'est l'apôtre Paul, en parlant de lui-même, qui disait qu'il était souvent en danger de mort, qu'il a reçu des Juifs 40 coups, moins un, plusieurs fois. Il était battu de verge plusieurs fois. Il était lapidé, qui a fait naufrage 3 fois, qui a passé un jour et une nuit dans l'abîme, et qui était souvent en péril dans sa vie. Et c'est cet apôtre Paul qui dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création est soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pas à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Cette gloire qui nous attend, que Dieu a promis, parce qu'il nous aime d'un amour incommensurable. Tout au début de Genèse, la Bible mentionne l'arbre de vie. Et lorsque nous arrivons à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, il est question à la fois de l'eau ou du fleuve d'eau de la vie, et de l'arbre de la vie. Et entre ces deux serre-livres, si je puis m'exprimer ainsi, il y a toutes les instructions de Dieu pour que nous puissions choisir, pour que nous puissions choisir correctement le chemin qui va à l'arbre de vie. Pour que nous puissions comprendre, savoir ce qu'il faut faire pour embarquer sur ce chemin. Nous avons de bons exemples dans la Bible. Nous avons de mauvais exemples dans la Bible qu'il faut éviter. Déjà les mauvais exemples des enfants d'Israël sont là dans la Bible pour servir, pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Nous voyons aussi dans la Bible que Dieu veut que nous prenions ce bon chemin, que nous décidions correctement pour que nous puissions avoir accès à l'arbre de la vie. Et nous voyons aussi l'amour de Dieu dans nos vies quand nous regardons en arrière, dans nos vies présentes, et nous voyons l'amour de Dieu à l'avenir. Et Dieu veut que nous puissions partie de ces serviteurs qui sont mentionnés dans Apocalypse 22. Je voulais lire à partir de Apocalypse chapitre 22 et le verset 1 qui montre l'avenir. Il me montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur le deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, une époque merveilleuse quand il n'y aura plus de souffrance, comme nous connaissons maintenant. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est notre avenir si nous continuons à marcher avec Dieu, si nous persévérons jusqu'à la fin. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur le front, parce qu'ils auront choisi la vie avec Dieu. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront pour l'éternité. Ils seront avec Dieu. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ceux qui ont pris le chemin qui leur permettent d'avoir accès à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 17. Je termine avec le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, c'est une invitation. Et que celui qui entend dise, viens, c'est une invitation et donc un choix. Et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, celui qui désire vraiment, celui qui désire vraiment l'éternité, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.